Jean-Emmanuel Rey vous présente un exposé « Évaluer le travail ou le salarié, point de vue d'un juriste du travail ». Jean-Emmanuel Rey est professeur de droit privé à Paris 1 Sorbonne. Il est l'auteur d'ouvrages importants et à succès. Son livre « Droit du travail, droit vivant » atteint des scores de vente à travers ses rééditions multiples. C'est donc un classique vivant, puisqu'il est réédité et réactualisé en permanence. Atteint des scores très élevés et je vous en recommande la lecture. J'en ai un exemplaire qui date de 2007, donc il est déjà dépassé. C'est gentil, je ne peux pas. Je serais ravi de collectionner Jean-Emmanuel Rey de la première, la dernière édition, etc. Il tient aussi une rubrique très importante en droit du travail sur l'actualité des technologies de l'information et de la communication, une rubrique trimestrielle dans droit social. Et il tient une chronique juridique mensuelle, si je suis bien informé, dans Liaison sociale. C'est donc un grand spécialiste de droit social, de droit du travail et aussi de technologie. Et je pense que son exposé va aborder peut-être certains aspects de croisement sans préjuger du contenu. Je lui passe la parole tout de suite et je le remercie d'avoir accepté mon invitation.
Merci, cher collègue. C'est moi qui vous remercie de m'inviter dans ce lieu magnifique qui n'est pas, à vrai dire, très éloigné de mon propre lieu de travail. J'ai dû traverser la rue Saint-Jacques et cela me plaît beaucoup. Nous sommes tous les deux universitaires. Je pense qu'il y en a aussi quelques-uns dans la salle. Et on a une particularité par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que notre métier, c'est d'évaluer. On passe notre vie à évaluer. Pourquoi ? Je vous donne un exemple concret. En licence, donc ce qu'on appelle en L3 maintenant, j'ai 26 travaux dirigés à faire tourner. Quand je donne le même sujet, avec des copies anonymes, le différentiel de contrôle continu et de correction, alors que les copies sont réparties de façon totalement aléatoire, est de 3 points. Et le maximum de différentiel, alors que les TD sont répartis de façon totalement aléatoire, eh bien, dans les TD, le maximum atteint parfois 4 points. Question, pourquoi, alors que la répartition d'étudiants est aléatoire, donc il y a parfois des très bons groupes, parfois des très mauvais groupes. Les mauvaises langues vous diront que c'est plutôt lié à l'horaire, mais bon, c'est uniquement les mauvaises langues qui vous diront ça. Pourquoi ce différentiel exceptionnel ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des jeunes chargés de TD, il ne vous a pas échappé que les chargés de TD étaient des jeunes thésards, des jeunes Master 2, et donc, il y en a qui veulent se faire aimer. Et ils pensent que pour se faire aimer, il faut donner des bonnes notes, ce qui prouve qu'ils n'ont rien compris. D'autres, au contraire, ils ont 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de plus que les personnes qu'ils ont en face d'elles, et donc ils veulent se faire craindre. Et pour se faire craindre, elles pensent que si elles mettent moins de 7 à tout le TD, au moins, ils seront meilleurs qu'eux, forcément. Vous êtes un TD de nul. Et puis, il y a aussi, dans toutes les professions, y compris l'université, des gens tout simplement paresseux. Et si je ne veux pas avoir d'ennui avec mon groupe, et donc je vais noter entre 9 et 11. Les meilleurs auront 11, les pires 9. Ça remontera rarement jusqu'au professeur Rey qui mettrait bon ordre. On a un métier très difficile, et vous imaginez vers ce quoi je m'achemine lentement mais sûrement. C'est que je suis juriste, je ne suis que ça, avec le taux de psychorigidité et d'amour de la norme qui va avec. Mais on aborde déjà la grande question. Si je demande à mes étudiants une obligation de moyens ou de résultats, ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il ne faudra pas répéter au-delà de ces murs, bien sûr, c'est que l'obligation de résultats, c'est une solution de fainéant pour des décideurs paresseux, dont je suis, dont sont beaucoup de managers. L'obligation de moyens, quand des jeunes gens ou des jeunes filles viennent pleurnicher dans mon bureau en disant « Monsieur le professeur, j'ai bossé comme un malade. » Et je les crois volontiers, c'est souvent vrai. J'ai bossé tous les week-ends, j'ai bossé la nuit, j'ai rendu 5 devoirs. J'ai beaucoup travaillé. Et puis, vous savez, le plus dur pour un enseignant, j'ai eu des problèmes personnels, ce qui est fréquent à cet âge-là. Est-ce que je vais rentrer dans cette double subjectivité ? La sienne et puis la mienne. Je porte une appréciation sur ces événements amoureux majeurs de l'année, forcément. La réponse est bien sûr que non. Ça me compliquerait trop la vie. Je vais partir d'une obligation de résultat avec empathie. J'aurais tellement aimé pouvoir compatir, mademoiselle ou monsieur, à vos ennuis multiples et variés, à l'investissement farouche que vous avez fait. Et là, le ton de la personne qui n'y peut rien, c'est là toute la subtilité. Mais vous avez à mon égard une obligation de résultat. Combien avez-vous eu au partiel ? Ben, je viens de vous le dire, monsieur le professeur, j'ai eu 5. Oh, je comprends votre déception. Le résultat final, c'est 5. Je n'ai aucune raison de modifier le résultat final. Sans ça, je ne vais pas rentrer dans la vie privée de mes 1653 étudiants. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le juriste, très tôt, a mesuré le bilan coût-avantage des obligations de moyens et de résultats. L'obligation de résultat, ça va vite et on n'entre pas dans les problèmes personnels. Sous une apparence, vous me voyez venir peut-être de très loin, de froide objectivité. Là où ça devient intéressant, c'est est-ce que j'évalue le travail de mes étudiants ? Est-ce qu'un manager évalue le travail de ses collaborateurs ? Non. Je n'évalue pas le vrai travail de mes étudiants, à supposer qu'un étudiant travaille, ce qui est une vraie question, dans sa dimension complexe, les efforts qu'il fournit, les moyens qu'il met en œuvre, les ficelles aussi, pour un commercial dans une entreprise, l'expertise qu'il a acquise. Non, je mesure simplement le résultat visible. « T'as vendu combien de bouteilles de whisky ?» dira un manager. « Tu as quelle note à la fin de l'année ?» En un mot, ça réduit le travail humain à une somme quantifiable, cet autisme quantitatif qui domine notre société, en passant à côté de l'essentiel de ce qui fait la vraie vie d'un salarié, la vraie vie au travail, le rapport aux autres en particulier. Sur ce, je tiens à vous préciser, mon collègue qui m'a invité le sait très bien, c'est que si vous avez une vision un peu ancestrale de l'université, n'oubliez pas que nous sommes très souvent nous-mêmes évalués. Et là, ça devient très intéressant parce que je suis enseignant à Sciences Po, et à Sciences Po, on a toujours évalué les enseignants. À Paris, on ne les évalue pas. Ils sont censés être les meilleurs, donc c'est une présomption irréfragable. D'accord, on va pas se mettre à évaluer des gens qui sont forcément au top. Je ne partage pas cet avis. Pour ceux qui ne connaissent pas les étudiants, moi, je pensais au début, quand j'étais évalué, comme jeune professeur, que les étudiants auraient une vision alimentaire de la notation. D'abord, une vision prudente. Si je vous évalue, à quel moment, ce qui est important, pour savoir si je vous évalue avant que vous demandiez ma copie, je vais être gentil. Après, on verra. Toujours après, ça va de soi. Sans ça, ça n'a aucun sens. Et contrairement à ce que je pensais, mes pires évaluations ne sont pas venues des gens à qui j'avais mis 2. Je n'ai pas de complexe avec la notation. Les bons seront récompensés, les mauvais ne seront pas récompensés. Je ne note pas entre 9 et 11. Ce sont souvent des gens à qui j'avais mis 4 qui m'ont dit « il est extrêmement exigeant, mais avec lui, on avance ». Des gens à qui j'avais mis 17, j'attendais un retour, non pas de bâton, mais d'affection. On dit « il est sympathique, mais il pourrait faire un petit effort quand même, renouveler son cours plus souvent ». En amont, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses assez contre-intuitives dans la notation. Et c'est pour ça que la question est embarrassante pour un juriste. Certains enseignants, je suis directeur d'une formation à la Sorbonne, et je fais systématiquement évaluer tous mes enseignants. Je veux savoir ce qu'en pensent les usagers. Nous sommes dans un service public qui n'est pas protégé par un statut pour ceux qui ont un statut. Nous sommes au service du public et nos usagers. Donc je veux que les usagers aient un service exemplaire. Question, si les évaluations sont mauvaises, les étudiants disent, on est tous d'accord, ça ne le fait pas. Je vous cite, ça ne le fait pas. Réponse, ça ne le fait pas, pourquoi ? Et là, ils ont généralement des réactions un petit peu négatives. Ils nous donnent trop de travail. Alors ça, vous oubliez. Le jour où un étudiant dira, il ne nous donne pas assez de travail, qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations ? Est-ce qu'on écarte un enseignant qui se révèle super exigeant ? Ou est-ce qu'on le convoque en disant « voilà les problèmes qu'il pose ». On aborde maintenant le second point de l'introduction, vous l'avez compris, et c'est pour ça que ce sujet est passionnant. C'est que c'est un thème qui cristallise l'évolution du droit du travail depuis 1945. C'est une espèce de synthèse. On passe d'un monde à un autre, et c'est pour ça que c'est problématique. Je reprends. Au temps de Taylor et de Ford, au temps d'une civilisation, ouvre les guillemets, militaro-industrielle, et on ajoutera de la manufacture, militaire-industrielle, manufacture, l'évaluation n'était pas très compliquée. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, je vous rappelle qu'en droit du travail, je vais y venir, il y a un entretien d'évaluation obligé à 45 ans, parce qu'à 45 ans, vous êtes censé commencer à glisser vers la retraite, et donc on doit vous faire un point. C'est une évaluation obligatoire. Et comment on mesurait ? Ben, c'était très simple, c'était à l'heure, tu produis combien de pièces ? D'où l'expression de certains de nos étudiants qui ne savent pas ce que ça veut dire en vrai, quand on les bouscule un peu et qu'ils vous répondent d'un ton exaspéré, on n'est pas aux pièces, on leur répond, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non. Être aux pièces, c'est, on évalue la performance d'un collaborateur en fonction du nombre de portières, de frégates qu'il a posées. On rapporte ça à l'heure, telle heure Ford, et ça nous fait la performance. Le problème, c'est qu'il y a eu un double phénomène qui a conduit à une évaluation systématique de tous les collaborateurs. Avant, on évaluait les personnes qui étaient dans les postes de manager. Maintenant, tout le monde est évalué à tous les niveaux. Pourquoi ? Pour une double raison. D'une part, la révolution technologique, sur laquelle je vais revenir, mais surtout, vous le devinez facilement, la crise économique. Et là, nous sommes plus nombreux à avoir plus de 45 ans que moins de 25 ans, mais quand vous dites à vos enfants, si vous en avez qui ont l'âge de ceux que j'ai à la Sorbonne ou à Sciences Po, on est en crise, c'est l'éclat de rire. Depuis que je suis né, on me dit qu'on est en crise. Non, sire, ce n'est pas une crise, c'est une révolution. Nous changeons de monde, c'est ça le problème. Nous, ça nous rassure de dire c'est une crise qui va passer. Non, on change complètement de monde, complètement. Et soit, quand le vent se lève, soit on construit des murs, soit on ouvre des moulins. Et ma génération préfère construire des murs. Parce que la révolution en cours entraîne toutes nos certitudes. On va le voir dans un instant. Je résume. Crise économique, mutation, arrivée de nouvelles technologies, et puis moins d'inflation. Vous allez me dire, quel est le rapport entre moins d'inflation et l'évaluation ? C'est très simple. C'est qu'avant, quand il y avait 10% d'inflation, une croissance de 6%, c'était le gâteau qu'on devait partager. Résultat, l'augmentation était collective, les syndicats y veillaient. Quand vous réduisez la croissance en même temps que l'inflation, on ne peut plus donner d'augmentation collective. Les syndicalistes vous diront, pour d'autres raisons également, ils n'auront pas tort. Et donc voilà, c'était Jacques Dutronc qui l'avait annoncé en 67, et moi, et moi, et moi. Voilà le début de l'évaluation en droit du travail, en droit du travail, au sens de l'individualisation. L'individualisation, c'est à la fois le produit et la cause de l'évaluation. Donc, on va évaluer individuellement chaque collaborateur sur des critères sur lesquels je reviendrai, bien sûr, dans quelques instants. Et là, on se heurte, évidemment, on commence à savoir faire. Et là, on pense à l'équipe de foot dans son bus en 2008. Et on se dit, une évaluation individuelle, c'est sympathique. Mais une entreprise a une productivité forcément collective. Le produit d'une entreprise est forcément collectif. Ce n'est pas comme une société, ce n'est pas une somme d'individus. C'est un dynamisme, une dynamique qui se crée entre individus. Et c'est là qu'on se retrouve heurté à une question un petit peu embarrassante. Si j'évalue chacun sur chacun, ça encourage les comportements individualistes. Et vous me voyez venir peut-être de loin. Ce type de comportement, est-il vraiment par rapport à la performance globale intelligent ? C'est pas sûr du tout. Mais surtout, ça aboutit à un double phénomène qui est irréconciliable avec le développement d'une entreprise. C'est que premièrement, si jamais donc, on abandonne l'évaluation purement individuelle, parce que c'est l'équipe qui marche, c'est l'entreprise, c'est la collectivité qui fait marcher la boîte. Mais à ce moment-là, vous savez que l'intelligence dans notre monde complexe consiste à choisir entre de grands inconvénients. Et donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais noter l'équipe, parce que c'est ça qui fait marcher une boîte. Vous êtes 20, on va noter votre performance collective. Certains vous diront, c'est pire que tout. C'est l'émission de télévision la plus atroce qu'on ait vue dans les dernières années, c'est le maillon faible. C'est, moi je suis dans l'équipe de 20, mais je suis déprimé. Je plombe les résultats de l'équipe. Objectivement, je plombe les résultats de l'équipe. Et là, à ce moment-là, l'équipe me dit, ça serait bien que tu sois muté dans l'autre équipe, l'équipe des losers, là. Eux, il n'y a que ça, donc vas-y. En un mot, c'est la collectivité elle-même qui m'incite à partir ailleurs. Situation, sur le plan humain, un petit peu difficile à supporter. Mais quand je vous disais que ça cristallise un peu tout, et je ferai des allers-retours avec le droit du travail, c'est pour ça que c'est intéressant. Tout ce que je vous dis là, c'est le rapport entre l'individu et le collectif. C'est le problème d'aujourd'hui du droit du travail. Et si vous suivez l'actualité, c'est le problème des accords de maintien de l'emploi. J'ai signé avec des syndicats unanimes le fait qu'on baisse les salaires de 15%, le poids du collectif, pour sauver la collectivité. Et puis vous avez 150 personnes qui refusent. Qu'est-ce que je fais de ces 150 personnes? Est-ce qu'elles ont raison ou tort? Les rapports entre l'individu et le collectif, c'est la question qui se pose en droit du travail aujourd'hui. Deuxièmement, avec l'évolution des technologies, et là, soupir, séquence, émotion par rapport aux gens qui ont plus de 45 ans. Moi, quand j'ai vu le contrat de génération, pourtant je suis de la même génération que François Hollande, je me suis dit, il n'a pas bien compris. C'est ce que disait Michel Serres, peut-être dans ce même amphithéâtre. La technique, c'est ce que les parents apprennent aux enfants. La technologie, c'est ce que les enfants apprennent aux parents. Donc quand dans un contrat de génération, vous dites à un gamin qui a 21 ans, qui est né avec Facebook, je dis bien, maintenant ils sont natifs, d'accord, ils sont nés dedans, d'accord. Si vous avez des enfants, vous voyez ce que c'est. C'est que vous leur privez de portable, c'est un traitement inhumain et dégradant au sens de la Cour de Strasbourg. Bon. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'expérience était forcément valorisante et valorisée. L'expérience, c'était les petits trucs, le savoir-faire. Aujourd'hui, l'expérience est parfois contre-productive. Parce que justement, les choses changent tellement vite que celui qui veut faire comme avant n'y arrivera pas et plombera l'équipe. C'est la compétence professionnelle plutôt que l'expérience. En termes d'évaluation, c'est une autre paire de manches. Et puis toujours pour se terminer sur cette séquence émotion, c'est ça qui a changé radicalement. C'est que moi j'ai été éduqué, comme beaucoup d'entre vous, sur un système basé sur l'autorité. Dans ma famille, j'avais un pater familias qui détenait la puissance paternelle. Je dis bien la puissance paternelle, pas l'autorité parentale. La puissance paternelle. Quand mes parents, et spécialement mon père en question, un sourcil bougeait, l'ensemble des enfants rampaient sous la table. Ceux qui ont plus de 50 ans me comprennent. Les moins de 25, pas du tout. Après, à l'école, je suis tombé sur le même type de personnage, un hussard noir de la République qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon père. On était 40 dans la classe, je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Élever la voix. Au lycée, pareil. Vous voyez où je veux en venir? J'étais parfaitement adapté pour devenir un subordonné, absolument subordonné. Voilà. Un type à qui on dit « t'as un N plus 1, c'est lui le chef ?» Oui, chef. Système militaro-industriel. J'ai un supérieur. Ça ne s'invente pas, ça. J'ai un supérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui ont entre 15 et 25 ans, mais l'idée, la simple idée qu'il faut aborder avec délicatesse, qu'une personne puisse donner des ordres, je dis bien des ordres, pas des conseils, pas une négo, d'accord, c'est tu fais comme ça et c'est pas autrement. Ça marche moins bien. Je fais dans la litote. En un mot, dans l'évaluation, ce que je suis en train de vous dire, c'est on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce qu'on doit évaluer aujourd'hui dans une entreprise? Le petit chef, vous savez, celui qui cherche la règle pour embêter ses subordonnés? Ou ce que Dominique Turc, un spécialiste de la technologie, a appelé l'autorité horizontale? C'est curieux, cet oxymore pour nous, l'autorité horizontale. L'autorité horizontale, ce n'est pas celui qui est N plus 1. Ça ne marche plus. C'est peut-être le seul point sur lequel les jeunes générations ont raison. Sur le reste, on n'en parlera même pas tellement c'est grotesque. Bon. Mais là-dessus, ils ont raison. Ils ne reconnaissent, et je suis bien passé pour vous en parler, parce que je suis chaque jour devant 1000 étudiants qui ont entre 18 et 25 ans. Ils ne vous reconnaîtront supérieur au sens, je peux vous adresser un message, que si vous avez de l'expertise et de l'exemplarité. Voilà ce qui fait aujourd'hui un manager. Des gamins de 20 ans obéiront au doigt et à l'œil, rêvez, au doigt et à l'œil, à quelqu'un qui leur aura montré que sur le plan professionnel, il n'y a pas de contestation. Et dans son comportement personnel, c'est exactement identique. Auctoritas. Question maintenant, j'avais mes vieux questionnaires d'évaluation façon Boulogne-Billancourt. D'accord. Est-ce que le top-down descend bien? D'accord. Ça ne le fait plus. Ça ne le fait plus. Je cherche des leaders. Je cherche des managers. Pas des supérieurs hiérarchiques. Et là, si vous voulez, il y a une... c'est pour ça que ça cristallise tout. Je vous rappelle que ça, beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en clair, ça scie la branche sur laquelle je suis assis depuis 40 ans, ce qui est un peu intéressant pour moi. Nous sommes au temps de ce qu'on appelle faussement l'entreprise Web 2.0. Je traduis, l'entreprise n'est plus seulement hiérarchique, elle l'est forcément. Une entreprise, ce n'est pas une somme d'atomes libres. Il faut quand même quelqu'un en haut donne les directives, ça va de soi, il ne faut pas non plus perdre la tête. Mais ce qui marche, ce n'est pas la sub, c'est la co. La collaboration. On échange horizontalement, etc. En un mot, c'est l'intelligence collective d'une boîte qui fait marcher les travailleurs du savoir. Et je ne me méprends pas sur, il ne faut pas quand même perdre de vue la réalité, les 5 millions d'ouvriers pour lesquels la collaboration sur une chaîne de fabrication existe, mais pas dans les mêmes conditions. Je ne vous parle pas des 6 millions d'employés et ES, généralement, pensez à des centres d'appel, où si vous leur dites « tu fais comme tu le sens », etc., la réponse sera brutale. Mais nous allons vers une société de la communication. On aime ou on n'aime pas, ça sera comme ça. Et nous sommes tout au début, on n'est pas à la fin, on est tout au début, tout au début. Je résume. Avant le top-down, Taylor Ford, la discipline la plus forte est la source de la plus forte productivité. C'est ça l'idée, d'accord ? Plus t'es soumis, plus t'es productif. Et je te surveille parce qu'avec tes bras, je vois si tes bras s'arrêtent. Les temps modernes. L'homme-machine. Aujourd'hui, pour un travailleur du savoir, et évidemment dans mon métier, je ne fréquente que les travailleurs du savoir. Je suis face à des futurs travailleurs du savoir et j'en suis un. On n'est plus dans le command and control. Command and control, on ne fait pas marcher des intellectuels, des travailleurs du savoir sur le command and control. Ça ne marche pas. On les fait travailler parfois comme des malades, à 150, ils bossent le dimanche, la nuit. Si on les coordonne, si on les anime, si on les relaie, ça ne demande pas du tout les mêmes qualités. Pas du tout les mêmes qualités. En un mot, le partage n'est pas naturel. Pas du tout, surtout en France, pays de cours. Surtout si omnes omnium. Surtout si mon évaluation est une évaluation individuelle, avec des phénomènes de benchmark en particulier, où je t'évalue, dans un premier temps, par rapport à toi, mais par rapport aux autres. Et donc tu peux être très bon, donc vous avez l'impression d'avoir éclaté les compteurs, comme on dit. Et je dis, t'es très bon, mais par rapport aux autres, t'es moyen. Tout est relatif. Concluons par un cas typique. J'étais membre du jury d'agression des facultés de droit. Et on m'a dit que c'était tous les deux ans pareil. On a des discussions extrêmement vives, mais vives pour des professeurs d'université, on n'en vient pas au collet, mais c'était à peu près ça. Voilà quelqu'un qui, sur le plan juridique, est absolument exceptionnel. Absolument exceptionnel. Il nous fait une leçon de 40 minutes sur le plan de la technicité. Il est des nôtres. Question de certains membres du jury. Il est exceptionnel en tant que chercheur. Il est très mauvais en tant que professeur. On le prend comme professeur d'université ou on ne le prend pas? Il devra tenir l'amphimile de Tolbiac, on ne peut pas souhaiter ça, son pire ennemi. C'est pas le tout, je reviens à l'entreprise, c'est pas le tout d'être un ingénieur exceptionnel aujourd'hui. Vous avez des ingénieurs absolument qui seraient notés 20 sur 20. C'est Einstein. D'accord. Oui, mais sur le plan coopératif, il est nul de chez nul de chez nul. D'accord. C'est mon titre. On ne peut plus avoir ce type d'ingénieur. L'entreprise est ouverte. L'entreprise se nourrit d'autres choses horizontales, non plus verticales. Comment note-t-on un professeur exceptionnel, mais qui n'est pas très bon en droit? Est-ce qu'on pense que le droit s'apprend? Que l'enseignement, ça ne s'apprend pas? Comment va-t-on noter cet ingénieur absolument génial, mais qui n'a aucune envie de partager son savoir, qui veut tracer sa route tout seul? Enfin, je terminerai par, on est dans le temps, l'espace. Si vous connaissez le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est très ouvert, je ne vous souhaite pas un jour de vous retrouver face à un tribunal de grande instance en train de défendre le système d'évaluation d'une boîte américaine. Là, si vous voulez, c'est une question de culture, mais de culture basique. Et vous verrez tous les contentieux que je vais vous citer, rassurez-vous, on va faire un peu de droit dans quelques instants, tout de même. Tous les contentieux que je vais vous citer sont toutes des boîtes américaines. Pourquoi ? Parce que nos amis américains ont des valeurs qui ne correspondent pas tellement aux nôtres, au sens, malgré l'amitié forte entre François et Barack. Les Américains ont une culture de la liberté. Nous avons une culture de l'égalité. En termes d'évaluation, ça donne des résultats assez redoutables. Culture de la liberté, je vous cite des arrêts et autres décisions. En un mot, les questionnaires américains sont extrêmement intrusifs, mais extrêmement intrusifs. Ce sont des choses qui, nous, on leur demande, tu peux me répéter, parce que c'est de l'ordre du gag. Alors, je passerai sur quel est son degré d'adhésion aux valeurs de l'entreprise, sachant que parfois l'entreprise vous dit dans ses 10 valeurs. C'est amusant, nos 10 valeurs, non ? Dans ses 10 commandements. Quoi. Nous sommes attachés à ce côté libéral. Nous, Français, on en frémit. Outre-Atlantique, on n'en frémit pas. Ça fait partie du job. Je vous traduis, quelle est sa passion pour l'entreprise ? Traduction pour un Français, comment tue-t-il sa vie privée ? Est-ce que c'est un leader courageux ? C'est quoi un leader courageux ? C'est celui qui évalue sec les mauvais ? Celui qui... Il y a des leaders pas courageux. Il y a des managers qui ne font pas le job. Je vais vous dire un mot dans un instant. L'évaluation, ça nécessite un certain courage managérial. Et le courage n'est pas donné à tout le monde. Alors, si certains d'entre vous ont travaillé au travail d'entreprise, ça donne oui, tout se passe bien, j'ai juste 2 minutes, hein, donc voilà, t'as rien à me dire, moi non plus, bon, on va remplir ça vite fait. On pense, il est foncièrement mauvais, mais je ne veux pas me fâcher avec lui, tous les matins je vais le retrouver. Et puis, dans 3 mois, je lui dirai, t'es foutu à la porte pour insuffisance professionnelle. Il m'a dit, mais on s'est vu il y a 3 mois, tu m'as dit que ça allait bien. Oui, ben ça a changé. Quoi. En un mot, beaucoup de dirigeants de filiales françaises sont en grande difficulté. En grande difficulté, parce qu'en France, on a une culture, une religion laïque de l'égalité. Alors, traduction pour un salarié, ça veut dire qu'une évaluation, c'est la tête du client. Et pour un syndicat, c'est vous voulez mettre de l'individu partout et démolir le collectif. Et là, j'ai toujours aimé la phrase de quelqu'un qui connaissait bien les Français, il s'appelait Charles de Gaulle, et tout est dit. Les Français ont 2 passions, la passion de l'égalité et le goût du privilège. En un mot, nous sommes pour l'égalité si jamais nous devons en bénéficier. Si nous pouvons avoir une médaille, une promotion, nous sommes pour la liberté. Et par pure méchanceté, étant fonctionnaire de la République et ni avocat ni consultant, je suis trop fier d'être fonctionnaire de la République, on pourrait évoquer le fait que nous sommes tous, nous fonctionnaires, comme mon cher collègue, partie d'une majestueuse grille de la fonction publique où tout le monde est égal. Je peux vous dire au centime près combien gagne un conseiller d'État, un cotation. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous notés. Et nous sommes notés généralement autour en dessous de 17, c'est qu'on est franchement mauvais. Et en dessous de 18, ça commence à le faire. Vous présentez ça à un public américain, il vous dira, il y a un souci de fonctionnement. De fonctionnement. C'est une question de culture, mais vraiment très profondément. Et c'est ma transition vers l'aspect purement juridique. C'est que maintenant, avec la mondialisation, vous avez des collaborateurs des boîtes internationales qui sont évalués par des gens qui sont à 8000 km, qu'ils n'ont jamais vus. On est bien d'accord. Je ne l'ai jamais vu, Tom, d'accord ? Il est à San Francisco. Et on s'appelle, et pour l'évaluation, on se fait ça en visioconférence. Donc on se voit, ce qui est rare. Vous imaginez la culture différente, la localisation différente. C'est évaluer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Est-ce que c'est encore une évaluation ? Rassurez-vous, on va arriver maintenant à l'aspect 100% juridique. Alors, dans les 20 minutes qui me restent, qu'est-ce que peut dire le juriste sur l'évaluation ? Le chef d'entreprise est dans une situation très difficile parce que c'est un droit pour lui, c'est un devoir. Légalement, il doit évaluer ses collaborateurs, mais parfois, on ne lui fait aucun cadeau lorsqu'il évalue, ce qui produit chez lui une forme de schizophrénie tout à fait intéressante. L'arrêt principal, c'est un arrêt récent, c'est un arrêt du 10 juillet 2002. La question, c'était, un syndicat disait, au nom de quoi l'employeur peut évaluer un collaborateur ? Réponse de la Cour de cassation, que je partage. L'employeur tient de son pouvoir de direction et du contrat de travail le pouvoir d'évaluer le travail de ses salariés. Alors, si vous n'avez jamais fait de droit du travail, je vous rappelle que le terme droit du travail est mensonger. Le terme droit du travail, le droit du travail ne protège pas les travailleurs, il protège les travailleurs subordonnés. Un artisan, un commerçant n'est pas protégé par le code. Donc voilà la source du pouvoir d'évaluation. Tu es mon subordonné, ce n'est pas une vision idéologique, c'est le critère du contrat de travail. Le critère du contrat de travail, c'est la subordination. C'est pour ça que quand mes étudiants disent « on va se mettre en grève », je leur dis « restez poli ». Restez poli, vous n'êtes pas subordonné. Donc le droit de travail est réservé aux subordonnés. Et résultat, j'ai, de par l'intérêt de l'entreprise que je représente, moi, chez l'entreprise, eh bien, je dois affecter les meilleures personnes aux postes qui sont les leurs, et donc je dois évaluer leur performance. Je suis tenu d'évaluer. Je vous en prends quelques exemples. Si je n'évalue pas, je suis devant le Conseil des prud'hommes ou le TGI dans une situation extrêmement délicate. Et plus que délicate, on me reprochera, mais monsieur, enfin, vous deviez l'évaluer. Je ne l'ai pas fait, vous êtes fautif. Premièrement, je ne parle même pas des discriminations. On va parler d'un principe créé par la Cour de cassation qui s'appelle l'égalité de traitement. Depuis 10 ans, la Cour de cassation a créé de toutes pièces un principe général d'entreprise privée qui s'appelle l'égalité de traitement. Ce qui veut dire que si n'importe quel collaborateur est payé moins que quelqu'un qui est censé le faire le même travail, peu importe l'ancienneté, le diplôme, hein, ils font le même travail, eh bien, je serai assigné, si je suis chef d'entreprise, et on me dira, ouvrez les guillemets, « démontrez-moi par des éléments objectifs et pertinents, pas seulement objectifs et pertinents, que vous pouvez payer machin moins que machin ». Alors là où ça devient un peu amusant, et je pense que ça fera sourire les universitaires et mon voisin qui est dans la salle, c'est, vous avez des grandes écoles qui disent, écoutez, monsieur le juge, il sort d'HEC, là de Paris 22, donc là, si vous voulez, monsieur le juge, restez poli, enfin, il sort d'HEC, quoi. Enfin, on va pas mélanger tout, quand même. Réponse des juges, et alors ? Monsieur le juge, HEC. Réponse, ils font le même boulot ? Bah oui, mais HEC, monsieur le juge. Réponse, alignement vers le haut. En un mot, je dois systématiquement évaluer mes collaborateurs pour me garantir contre des procès en discrimination, on n'en parlera pas, parce que ça, c'est un aspect pénal qui est redoutable. Mais en inégalité de traitement, je dois justifier à chaque fois, monsieur, vous êtes payé moins, parce que lors de la dernière évaluation, et on sort l'affiche, regardez, les clients étaient plus satisfaits, je me justifie systématiquement contre des procès en inégalité de traitement. Je ne parle pas de discrimination pénalement sanctionnée, pas race, religion. D'accord. Deuxièmement, en cas de licenciement économique, là, j'ai intérêt à avoir des évaluations bien à jour. Hein. Et vous imaginez facilement, lors des licenciements, dans la plupart des entreprises, lors des licenciements est fait sur les qualités professionnelles. Oui, mais pourquoi celui-là est meilleur que celui-là ? Ben, c'est très simple, je te sors les 10 dernières évaluations des 10 dernières années. Regarde la progression, lui, non. Donc lui, il part d'abord. Je dois évaluer mes collaborateurs par des obligations juridiques qui sont les miennes. Ça, c'est la jurisprudence qui les a obligés, mais la loi les oblige aussi. Si je suis un cadre en forfait jour, je ne suis pas aux 35 heures, mais la loi m'oblige tous les ans, la jurisprudence tous les 2 ans, à convoquer chaque cadre autonome qui est en forfait jour, en lui disant, alors, la charge de travail. Et j'insiste, hein, j'évalue sa charge de travail, j'évalue sa satisfaction à l'égard de, ouvrez les guillemets, vie privée, vie professionnelle, vis-à-vis de l'organisation du travail, Et c'est une évaluation qui doit donner lieu à des conséquences. En un mot, rapport de l'évaluation. Monsieur X est très mécontent de son forfait jour parce qu'il travaille le samedi à la maison, le dimanche à la maison, et par ailleurs, l'organisation de travail est mal faite parce que ce n'est suivi de rien. Il tombe en dépression. Vous êtes en cas de faute inexcusable. Inexcusable. Les deux évaluations avaient bien montré qu'il y avait un dépassement manifeste des durées légales, que la charge de travail était excessive. Ce n'est pas seulement sentimental, hein. Il y a des conséquences tout à fait importantes. Deuxièmement, on l'a déjà vu, l'entretien à 45 ans. Je suis tenu de faire un entretien pour savoir comment adapter un personnel. Ce qui est drôle, c'est qu'à 45 ans, dans le même état qu'on était à 65 ans il y a 40 ans. Hein. Mais donc, vous êtes en pleine ascension professionnelle, on vous dit, écoute Hubert, il faut qu'on parle. T'es sur une pente savonneuse. Il y a des entretiens d'évaluation qui sont tueurs. Tueurs. Je ne vous parlerai pas de l'Himalaya qui fait les délices des juristes. Mais si vous voulez, c'est juste pour vous indiquer la difficulté de ce type d'évaluation. L'Himalaya qui est réservé aux gens qui ont Bac plus 24, en dessous on ne comprend pas, c'est je suis dans une grande entreprise et j'ai des permanents syndicaux. Je dis bien des permanents. En clair, ils n'ont aucun poste de travail. On est bien d'accord. Ils sont permanents. Ce qui est très fréquent, toutes les grandes entreprises ont des permanents. Question, tout mon personnel est évalué chaque année. Sur ce, à moins que vous ayez un sens de l'humour social assez particulier, je n'ai pas convoqué mon permanent CGT, que je ne vois strictement jamais, il est dans mes effectifs, mais je ne vois strictement jamais, d'accord, en disant, alors Hubert, ça va le syndicat, je vais t'évaluer, voilà. Sur quoi voulez-vous l'évaluer? Alors des managers pleins d'humour, d'humour juridique, c'est comme la musique militaire. On dit, vous devez l'évaluer. La Cour de cassation a dit, vous ne l'évaluez pas, vous êtes en discrimination. Alors, réponse d'entreprise, mais comment je fais? Eh bien, vous devez l'évaluer non pas sur ses performances syndicales, ça on oubliera, ce serait amusant que le manager note les performances syndicales, hein, mais sur un éventuel retour, une formation, ce qui n'est pas idiot du tout. En un mot, l'entretien d'évaluation annuel ne sert pas comme les autres à sa performance économique, ni d'ailleurs sa performance syndicale. Son évaluation sert à faire le point avec lui sur où en est-il sur le plan de la formation professionnelle. Et très souvent, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que le militantisme syndical a aussi son âge. Que quelqu'un à 45 ans dit, écoute, maintenant j'ai fait le tour de la question, ça fait 20 ans que je suis délégué syndical central, je souhaiterais revenir sur le terrain. Et voilà à quoi servira l'entretien annuel. Écoute, cette année, je note ta demande, on va te faire partir, c'est ce que fait Sciences Po. Sciences Po a des cycles de formation destinés, etc. Et dans un an, il quittera son mandat de permanent et il sera reclassé non pas au poste de guichetier qu'il avait il y a 20 ans, mais à un poste qui est compatible avec son expérience syndicale. Mais quand vous dites à un manager dont les objectifs sont de plus en plus fous, tu vas noter le délégué qui part 50 heures de délégation par mois, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne faites jamais évaluer un délégué syndical ou un délégué syndical par son propre manager. Le manager a été crabouillé par ses objectifs, d'accord? Et la réponse, ça donne lieu à des arrêts de la chambre criminelle, en clair, la prison, quoi. Cette phrase-là vous mène directement en prison. Monsieur X est manifestement plus intéressé par ses mandats de délégué syndical et personnel que par les objectifs de l'entreprise. C'est direct la correctionnelle. Et c'est même pas plaidable. Ce n'est même pas plaidable. Vous ne devez tenir aucun compte d'activité syndicale. On terminera par un aspect plus descriptif, mais vous dire que la France, et c'est mon dernier point, la France est le seul pays au monde, je vous laisse le résultat de votre analyse sur est-ce que c'est un coup de génie français. Il n'y a que les Français qui peuvent comprendre. Il y a 6 milliards de personnes qui n'ont toujours pas compris qu'il y avait dans le monde un pays qui était différent des autres. Donc, est-ce que c'est un coup de génie ou alors un coup d'épée dans l'eau? Ça, je vous laisse seul juge. Nous sommes le seul pays au monde à avoir encadré de façon drastique l'évaluation des collaborateurs. Cette loi date du 31 décembre 1992 et c'est une loi sur le recrutement, mais qui du coup a été exportée sur l'évaluation. Premièrement, aspect individuel, aspect collectif. Et là, vous allez voir que c'est le pays le plus réglementé du monde sur l'évaluation. Premièrement, loyauté contractuelle individuelle. Je n'ai pas le droit de faire subir des tests à un collaborateur avant son évaluation. On va voir si tu parles anglais, mon gars, tu vas te passer le... Je n'ai pas le droit de faire passer des tests sans avoir dit, quel qu'il soit, psychotechnique, tout ce que vous voulez, hein, le droit du travail, sans avoir dit à chaque fois, quelle que soit l'épreuve, à quoi ça va servir. D'accord. Donc, information préalable sur les méthodes et techniques d'évaluation. Et il va de soi que ces résultats sont confidentiels. En un mot, je n'ai pas donné à autrui les résultats de l'évaluation. En revanche, il va de soi que, et c'est là où il y a des soucis, il va de soi qu'ils sont confidentiels à l'égard des tiers, ils ne sont pas confidentiels à l'égard du salarié lui-même. À votre avis, comment notre DP a eu l'appréciation, s'occupe plus de ses mandats que de son objectif? Mais il a demandé communication de son dossier d'évaluation, évidemment. Et l'employeur a dit, non, c'est trop sensible, je ne te le donne pas. Il va de soi que l'intéressé a droit à communication de son propre dossier. Ça, c'est la loi informatique et liberté. Aspect individuel. Aspect collectif. Et c'est là qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré sur la piste et personne ne l'attendait. Et c'est lui qui fait la loi aujourd'hui. Premièrement, en clair, l'idée, c'est la transparence absolue. Une transparence préalable. Je mets en place des tests de benchmark, de ranking, de 360, ce qui est à la mode aujourd'hui. Je dois, c'est pas je peux, je dois informer et consulter d'abord mon comité d'entreprise. Ça, c'est une règle générale. Tout ce qui est technique, collective, doit donner lieu à une information, consultation préalable. Mais il y a une nouveauté qui est en train de bloquer tous les systèmes d'évaluation américains en France. Personne ne l'attendait. C'est un arrêt groupe Mornay du 28 novembre 2007 qui a fait exploser. Personne ne s'y attendait. C'est une institution qui était peu connue, qui s'appelle le CHSCT. En un mot, c'est l'instance chargée de la santé et de la sécurité. Alors, la santé et sécurité au temps de Ford, c'était la loi de la pesanteur. Le salarié tombait. Okay. Aujourd'hui, c'est la santé physique et mentale. Mentale. Vous me voyez venir. Est-ce que des évaluations un peu raides, est-ce que des objectifs trop élevés ne porte pas atteinte aux conditions de travail et à la santé mentale des collaborateurs. Aujourd'hui, ce sont les CHSCT qui sont en train de bloquer dans de très nombreux TGI de France et de Navarre des systèmes d'évaluation. Pas le CE, pas les salariés, le CHSCT. Et je vous en donne quelques exemples. Il va de soi que le benchmark qui consiste à classer les salariés l'un contre les autres. Qu'est-ce qu'a dit le TGI de Lyon le 4 septembre 2012 ? Grosso modo, c'était une caisse d'épargne qui classait les salariés quasiment en temps réel. Oh, t'es 23e, oh, t'es 4e, non, tu viens de descendre, non, tu viens de remonter. En temps réel, en temps réel. Donc, il faut dire que le but était de figurer dans le top 10, si possible, pas en dessous, parce qu'en dessous, le message était, t'es en dessous, quoi. Est-ce que tu as encore des nôtres, quoi ? Si t'es pas in, tu es où ? Réponse, système illégal, encourageant à une pression sur le travail des collaborateurs tout à fait excessive. Idem pour tout récemment, TG Nanterre, dans une auto-évaluation. Là, on y reviendra, c'est plus compliqué. Mais vous allez voir le mieux quand même. C'est une décision de TG Nanterre du 5 septembre 2008. C'est un groupe néerlandais. En aucun, c'est très rare que ce soit un groupe français. Je vous donne les trois critères. Focus client, innovation et responsabilité. Focus client, innovation et responsabilité. Alors, il faut que les critères d'évaluation soient objectifs et transparents. Ça, on l'a vu, hein. Objectifs et transparents. Alors, c'est là où ça devient plus amusant. À propos de l'innovation, je vous cite le critère pour vous dire qu'on est vraiment dans une autre stratosphère. Pour les managers, ouvrez les guillemets, il a une pensée originale. Il propose des idées et des solutions innovantes et encourage ce comportement chez les autres. C'est vaste comme programme. Qui a des idées originales ? Et accrochez-vous, c'est le caractère merveilleux de mon métier, c'est qu'on trouve des juges qui se lâchent vraiment. Et donc la réponse du TGI de Nanterre, sur le plan juridique, je ne vous le cache pas que c'est un peu iti quand même. Mais ça donne, écoutez bien, les idées originales étant rares, son comportement risque de n'avoir aucun effet sur la notation. C'est amusant comme vision juridique des choses. J'en termine sur la forme. Le droit de la sécurité sociale intervient aussi. Arrêt du 1er juillet 2003. Un entretien d'évaluation, si vous connaissez l'entreprise, on voit assez bien ce qui était préparé. C'est un collaborateur qui ne fait plus l'affaire. Et il faut que le message passe, quoi. Il faut que le message passe, c'est il faut que tu commences à réfléchir, à chercher un autre boulot. Donc à l'entretien, SRH 1900 tours, comme on appelle ça à l'entreprise. Le salarié sort complètement déstabilisé et fait une tentative de suicide en rentrant chez lui. Réponse de la Cour de cassation. Constitue un accident de travail. Il l'a fait chez lui. Cause d'un accident de travail, la dépression nerveuse d'un salarié apparut 2 jours après l'entretien de l'évaluation au cours duquel son hiérarchique lui avait annoncé, etc., etc., etc. Lequel d'entre vous m'aurait dit à 20 ans qu'un entretien d'évaluation un petit peu brutal aboutirait à un accident de travail, Enfin, il va de soi que les lois informatiques et libertés doivent être respectées. Et là, la CNIL, je vous laisse aller sur le site de la CNIL. Commentaire trouvé par la CNIL, évidemment, 100 000 euros d'amende. Il nous a mis au prud'homme, il faut lui confier le plus de travail possible. Ça, c'est le genre d'évaluation qui n'a pas grand-chose à voir avec moi. Il a des problèmes d'odeur, il boit, il faut le licencier. Atteinte à la dignité. J'en terminerai par l'essentiel, c'est le fond. En un mot, on ne peut pas mettre en place un dévaluation qui ne soit pas transparent et objectif. Sans ça, il ne sera même pas mis en place. Le CHSCT ou le CE saisiront le TJ en référé en disant « Monsieur le juge, tout ce que je vous dis, c'est en référé avant la mise en place. Vous ne pouvez pas admettre que la notation soit faite là-dessus. » Et avec leur culture d'égalité et leur vision de juriste, qui ne connaissent pas toujours très bien l'entreprise, eh bien les juges, très souvent, suspendent la notation. Ce n'est pas leur culture du tout. Sur le fond, parce que c'est le fond qui est important, c'est l'article L1222 qui le dit. Les informations collectées pour n'importe quelle évaluation, je cite, doivent présenter un lien direct et nécessaire avec les aptitudes professionnelles. Un lien direct et nécessaire avec les aptitudes professionnelles. Et voilà donc la réponse qui vient forcément à l'issue de mon exposé. C'est pour un juriste, mais est-ce qu'il a raison ? Pour un juriste, l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la personne du collaborateur. On ne note pas une personne. On note le travail d'un collaborateur. On ne note pas une personne. On note les performances professionnelles d'un collaborateur. Une fois qu'on a dit ça, on est très très content. Ça claque bien. C'est moral. Oui, alors, est-ce qu'un bon technicien du droit fait un bon juge ? Pire. Et là, je me tourne vers les fonctionnaires, y compris mon voisin. Quelle est l'épreuve reine d'un concours de la haute fonction publique ? Est-ce une épreuve de mathématiques ? Est-ce une épreuve de droit ? Non. C'est ce qu'on appelle le grand oral. Voilà. Et donc, en l'espèce, l'épreuve du grand oral n'est pas destinée à vérifier la technicité d'un futur énarque, la technicité d'un futur magistrat. Non. Mais ça, il ne faut pas le dire. C'est on voit la personne et on se dit demain, il pourra embastiller une personne. Est-ce qu'il a la personnalité, d'accord ? Et on le triture à chaud. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons encore une vision très taylorienne. Aujourd'hui, quand on évalue un manager ou un professeur, ce n'est pas seulement celui qui vous rédige un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Et je prends outre, et là je vais défendre ce jeune juge d'instruction qui s'est fait descendre. Je crois que ce jeune d'instruction qui a foiré complètement outreau était un excellent juriste. La preuve, la Cour d'appel n'a jamais sanctionné ses actes juridiques. Il n'avait pas la bouteille personnelle. À 25 ans, n'a pas la bouteille pour gérer ce type d'affaires. Donc la technicité est très insuffisante pour faire un bon juge et qu'on fasse le concours d'agrès. En un mot, ce que je viens de vous dire, c'est, on l'a déjà vu en introduction, c'est qu'on savait très bien évaluer un ouvrier de production. On savait déjà moins bien l'agent de maîtrise. Est-ce qu'il fallait celui qui tient bien ou celui qui crée un leadership ? Vous êtes directeur des ressources humaines, chercheur. Qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? C'est celui qui trouve dans son coin, confrère supra, ou celui qui crée dans le laboratoire une dynamique qui fait que ça, on écrabouille la concurrence, parce qu'il est là. Sur le plan ingénieur, il n'est pas génial, mais il a un travail collaboratif. Je vous rappelle que dans le milieu qui est le nôtre, il y a un exemple très célèbre. En un mot, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement on ne sait pas très bien évaluer, au sens étymologique du terme, donner une valeur à des salariés, mais il faudrait s'interroger sur évaluer les évaluateurs. Et là, je vais prendre un exemple volontairement outre-Atlantique. une grande fac américaine, près de New York, a fait un sondage sur une théorie qui est très à la mode aujourd'hui en France, en disant « Est-ce que les jeunes managers femmes ont une politique différente des managers hommes ?» Et donc, on a présenté à des jeunes femmes managers new-yorkaises les mêmes personnes, exactement les mêmes. En clair, une jeune femme qui vient d'avoir un gosse à New York, donc c'est l'enfer absolu, d'accord ? Il n'y a pas de crèche, elle arrive en retard, elle part en avance. Bon. Réponse. Les jeunes femmes, qu'on appelle aux États-Unis DINK, double revenu et surtout pas d'enfants. Tu me dis quoi, Hélène ? Il a une rage dedans. Oui, ben je m'en fous, d'accord ? Je te paye pas en tant que maman, d'accord ? Je veux que tu sois là à l'heure et que tu fasses le job. D. Celle d'à côté, trois enfants, donc... une rage dedans. Ah. La même personne, dans les mêmes conditions, des évaluations exactement opposées, pour les mêmes performances. L'une comprend, l'autre ne comprend pas. Qui va évaluer les évaluateurs ? Et j'en termine en disant, la question c'est, on évalue pourquoi ? Pour encourager les collaborateurs, pour leur montrer la route, parce qu'on a plus d'expérience qu'eux, généralement. Ce n'est pas le même job de faire ça que de sanctionner pécuniairement un collaborateur. Ce n'est pas le même job. Je suis juge, je suis accompagnateur. Ce n'est pas du tout le même job. Il y a peu de managers qui sont à la fois juges, accompagnateurs et qui ont assez de hauteur de vue pour faire tout ça. J'en termine en vous disant que je vous parle du courage managérial. Et c'est ce que nous reprochent nos amis américains, allemands. C'est qu'en France, on ne veut pas se fâcher avec ses collaborateurs. C'est parfaitement humain. En un mot, si je l'évalue mal, il va me faire la gueule. Alors allons-y, si vous connaissez, c'est mon voisin qui connaît mille fois mieux que moi, les grandes techniques d'un manager peu courageux, alors ça s'appelle la semeuse, la tournante, donc ça donne réunion du service. Bon écoutez les gars, les fous de la RH m'ont demandé de vous noter, il y a des primes à la clé, je vous aime tous. Voilà. Alors, vous dites rien, la semeuse, on va faire de façon aléatoire, la tournante, on fera... D'où les réactions des entreprises américaines. On va obliger les managers à faire des catégories, du ranking. D'accord. Je veux qu'il y ait 5% de mauvais. Mais ils sont tous bons. J'en veux 5% de mauvais. Ils sont... T'as forcément des mauvais. Non, j'ai pas des mauvais. Alors tu mettras les moins bons. C'est ça le ranking. D'accord. Le ranking est déclaré illicite. Illicite en France. Ce qui a fait beaucoup plus aux États-Unis. Vous aurez compris que ce thème qu'on m'a proposé de traiter en 50 minutes est un thème qui ratisse très large. Et pour moi, c'est du vrai droit. Le droit, ce n'est pas la technique juridique. Si c'était que ça, un ordinateur ferait un bon juriste. Le droit, c'est réfléchir sur les valeurs qui font notre société. Je vous remercie.
Bien, c'est un exposé magnifique et... avec beaucoup de dimensions. Ce force ranking qui a été créé par les Américains, je crois par...
C'est
GE, oui, c'est ça, General Electric, est pratiqué là-bas. Mais est-ce qu'il n'est pas pratiqué un peu plus sournoisement en France sur le thème du vocabulaire du talent, c'est-à-dire la comparaison ordinale s'introduit toujours d'une manière ou d'une autre, et comment est-ce qu'elle elle fait partie des choses possibles ou impossibles dans les critères d'évaluation ?
Alors, vous savez, un juriste ne sait pas ce qui est impossible. Un juriste, tout est possible. Mais donc, je vous répondrai sur le plan légal, pas légal.
Oui.
Voilà. La réponse est la suivante, c'est une forme d'hypocrisie. En un mot, les Américains ont bien compris que s'ils disaient « tu dois m'en coller 5% en bas », le TGI de Nanterre dirait « je suspends le système d'évaluation ». Donc la réponse a été, et c'est ce qu'a approuvé un autre TGI, c'est « Monsieur le juge, mon système est une proposition, je n'impose rien ». Ce que vérifie le juge. En un mot, si dans certains services, il n'y a personne de mauvais, d'accord, le juge vérifie, il ne se fie pas simplement à la patronne chez l'entreprise. Mais grosso modo, le TGI de Grenoble récemment a indiqué que c'est vrai que des courriers électroniques disaient, vous savez, courbe de Gauss, voilà, grosso modo comme ça. Donc, il est, grosso modo, vous devez avoir 5%, réponse du TG Grenoble, après avoir vérifié équipe par équipe que c'était des conseils, mais pas un ordre, a estimé que, sous ce que vous venez de dire, évidemment, sous l'aspect talentueux, eh bien, ce système n'était pas illicite.
Ah oui, d'accord.
n'était pas illicite. Mais j'insiste, il n'est pas imposé au manager. Et on le vérifie. On ne croit pas seulement la patronne du DRH qui dit il n'y a aucun. On vérifie qu'un an après, d'accord, il n'y ait pas eu ce type de choses.
J'ai une deuxième question qui est, est-ce que vous connaissez ou est-ce qu'il y a des travaux sur l'impact de l'évaluation, enfin des travaux fins sur l'impact de l'évaluation sur la variabilité des rémunérations, c'est par différence de niveau, parce que le coefficient d'individualisation, il s'élève évidemment à mesure qu'on augmente, et donc j'imagine que la tolérance aussi ou la pratique de l'évaluation change à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des emplois.
Oui, donc ça, le ministère du Travail et la DARES font des études régulières sur la part du variable, oui. À la fois dans toute la population française. Hein. Donc la réponse est, le grand démarrage, c'était la crise. Avant, c'était plutôt tout collectif, la crise a obligé à individuer, donc c'est là qu'on voit le démarrage. Grosso modo, le summum a été il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on s'est aperçu, à cause de la collaboration du Web 2, que l'individuation avait un résultat contre-productif. Mais je suis commercial, mon bonus, qui est parfois de 50% de mon salaire, est purement individuel. Comment voulez-vous qu'après on me dise sur le réseau social, on va tout partager, les petits trucs? Je ne suis pas fou. Mon variable dépend justement des petits trucs que je connais. Je ne vais pas dire à tous mes collègues, voilà comment je fais plus 10%. En un mot, c'est, j'allais dire, grâce au Web 2, au système de collaboration qu'on remet en cause dans les entreprises qui sont dans ce système-là, ce système de omnes omnium, d'individuation, qui coule finalement la mise en place d'un réseau collaboratif.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a maintenant une situation de connaissance commune de la valeur de chacun au regard des critères ? C'est-à-dire que cette idée de transparence, elle est bilatérale, mais est-ce qu'elle est multilatérale ? C'est le grand problème, par exemple, pour reprendre l'exemple des universités américaines que je connais un peu, tout est bilatéral. Il n'y a pas de grille et tout se négocie. Et vous pouvez avoir une idée de ce qui est l'arrangement qui est fait pour votre collègue, qui peut être totalement différent du vôtre, alors que même, par ailleurs, il y a de la bibliométrie, il y a tous les outils possibles et imaginables. Donc, il y a une concaténation de systèmes où vous avez une part objectivable et une part totalement opaque. En France, on est dans quoi dans cette...
On reste beaucoup dans l'opaque parce qu'on a une culture de hiérarchique.
D'accord.
Et donc, on cache sous des critères qui sont assez larges pour mettre un peu ce qu'on veut derrière, une affection particulière pour tel collaborateur. Parce que c'est vrai que les critères objectifs, vous avez des collaborateurs qui, objectivement, ne remplissent pas les critères, mais qui, de par leur attitude générale, participent à la performance de l'équipe. Et donc, il faut bien les mettre quelque part. D'accord. En clair, on aboutit parfois à des usines à gaz. Enfin, je ne sais pas si vous avez travaillé dans les grandes entreprises. Avant, une évaluation, c'était une demi-page, d'accord ? Et puis, on signait. Aujourd'hui, c'est 15 pages avec des indicateurs qui sont tout à fait étonnants, mais tout à fait étonnants, dans lesquels, en clair, c'est l'informatique qui a permis un listing qui permet de faire remonter. Parce qu'évidemment, après, ça remonte, hein, éventuellement, pour préparer de futures restructurations.
Ma dernière question... Et concerne les CHCST, oui. Qui est un cas intéressant, est-ce que ça n'est pas, en quelque sorte, à travers l'implication d'un tout un ensemble d'experts extérieurs à l'entreprise, une manière de produire une formule de contre-évaluation à la disposition des salariés pour élargir la plage des critères et rendre l'opération à la fois au maximum individualisatrice et au maximum inertielle.
Pour l'instant, en France, on découvre le rôle du CHSCT. Donc le CHSCT met la pression. Le CHSCT, ce sont des élus internes, d'accord ? Ils peuvent faire appel à un expert extérieur, des grands cabinets d'expertise. Mais là, on est dans un rapport de force. C'est le deal, qui est un pur rapport de force, c'est de dire, votre évaluation dilira le CHSCT, qui peut agir en justice, hein, il peut agir escalité en justice. Votre système d'évaluation me paraît contestable pour raison de santé mentale, de pression sur les collaborateurs les plus faibles. Donc, soit, et là on rentre dans la négo, soit vous retirez ce critère et je n'irai pas en justice, soit si vous ne le retirez pas, j'irai en justice et nous vivons dans un monde de la réputation. Aucune entreprise n'a envie de passer pour l'entreprise qui secoue ses collaborateurs sur le plan physiologique ou psychologique pour des raisons d'objectifs. En un mot, le rapport de force aujourd'hui, il n'est plus tellement en justice. Une entreprise ne veut pas se faire allumer dans un grand quotidien du soir en disant, suite à d'autres mésaventures, aujourd'hui, la terreur d'une entreprise, c'est qu'un juge dise que dans cette entreprise-là, eh bien, il y a des pratiques qui, sur le plan du harcèlement moral. Parce que je vous rappelle que la jurisprudence a estimé que certains modes d'organisation constituaient en eux-mêmes du harcèlement moral. ce qui est quand même assez novateur pour un juriste.